Alors il y a deux possibilités. Et vous voulez voilà, nous apprendre, nous faire comprendre quelle est toute cette sensibilité de Dieu par rapport à la créature, à la manière de ce que peut ressentir une mère qui met son bébé fragile au commencement de son histoire, au commencement de sa vie, loin d'elle, et pour apprendre à marcher. Alors le souhait de la mère, c'est à la fois qu'il apprenne à marcher, parce que tant qu'il ne sait pas marcher, elle n'a pas réussi à faire un enfant. Faire un enfant qui ne sait pas marcher avec ses propres pieds, c'est pas vraiment le souhait de la mère, c'est clair. Mais en même temps, il y a un deuxième souhait, apprendre à marcher pour revenir vers moi. Mais voilà, l'histoire du monde, c'est que il y a toujours cette alternative. Bon, il faut apprendre à marcher, devenir majeur, adulte, en tant que créature. Mais il y a ces deux possibilités. Celui qui apprend à marcher pour revenir vers sa mère, ou celui qui apprend à marcher pour la quitter. Vous voyez la problématique qu'il y a là. Alors, si cet enfant était capable d'argumenter, il dirait, comment ? Je vais tomber, la chute. Je vais tomber, je vais faillir. Et effectivement, il ne sait pas marcher avant d'apprendre à marcher. Mais c'est ça, cet apprentissage. Et c'est une dure loi. Effectivement, il y a le risque de la faute, c'est-à-dire du trébuchement, je ne sais pas comment dire. Et cette crainte de la mère, il va tomber. Mais alors, prends-le dans tes bras. Non, il faut qu'il apprenne à marcher. Vous voyez le drame qui se passe entre le créateur et la créature. Alors bon, si vraiment il veut pas marcher et il se couche, alors on le prendra dans ses bras. C'est votre question tout à l'heure. Ken ? Oui ? L'avortement. C'est celui qui pouvait pas marcher. Alors on l'a couché. Bon, alors je reviens. Gamrinan dans Midrash. Et on enseigne dans le Midrash. Béchaach, un mot que nous avons au coup. Anochi, au moment où Dieu a dit « Je, c'est moi qui suis ton Dieu », Nikba à Torah Beliba. La Torah a été incrustée, Nikba, fixée dans leur cœur. Le fait que Dieu ait parlé à Israël, c'est lui qui a dit à Israël « C'est moi ». Ce n'est pas Israël qui est venu devant Dieu pour lui dire « C'est moi ». Le génie, on ne parle pas de génie, en fait, c'est particulier dans la révélation hébraïque, c'est le créateur qui parle. Ce n'est pas n'importe quel dieu, selon les mythologies. Est-ce que c'est bien clair ? Ce n'est pas n'importe quel dieu avec un petit dé. C'est le créateur qui parle. Et bien entendu, il ne s'est pas adressé à n'importe qui. Il y a un jugement préalable au fait que Dieu descende sur cette montagne pour ce peuple. Les choses étant à entendre dans le sens simple des mots qui sont employés par le récit. Ce n'est pas n'importe qui. Il y a un jugement préalable à travers toutes les étapes de l'histoire. C'est les descendants du premier homme qui sont arrivés à ce rendez-vous-là. Alors Dieu vient dire, eh bien, c'est moi qui suis ton Dieu à toi en particulier. Moi qui suis le créateur de l'univers, eh bien, c'est moi qui contracte alliance avec toi. Voilà ce que je voulais surtout expliquer tout à l'heure en commentant. La certitude de l'alliance entre Dieu et Israël, c'est que c'est Dieu qui a pris l'initiative. Il n'a pas choisi n'importe qui, c'est pas arbitraire. Mais le fait que ce soit Dieu qui choisisse Abraham et sa descendance, il y a certaines clauses, bien sûr, eh bien, c'est l'accent de certitude qu'il y a dans cette alliance. Si c'est l'homme qui choisit Dieu, c'est très aléatoire. Pourquoi ? Parce qu'un jour il choisit, un jour il ne choisit pas. Une tradition fondée sur l'inclination de l'homme n'a aucune base. C'est clair ? Vous voyez à quel point l'univers biblique est différent de l'univers religieux, de la religion subjective et individuelle. Et ça ne veut pas dire qu'à l'échelle individuelle, le juif, l'hébreu, l'psaume n'est pas connu. Mais à l'intérieur de l'alliance, qui, elle, est instituée dans ce sens-là. Dieu a choisi Abraham, alors on est sûr. C'est irréversible. Et alors Abraham est plus ou moins Abraham dans sa descendance. Et alors il y a plus ou moins éloignement, proximité, mais on est dans la maison. On est dans la même maison de rendez-vous, si j'ose dire. Oh, El Moïn, on va dire la maison de rendez-vous. Et voilà donc la différence. Et nos maîtres ont toujours insisté là-dessus. Le phénomène religieux en Israël, c'est une affaire collective. Que l'individu individuel y croit ou n'y croit pas, qu'il y croit positivement ou qu'il y croit négativement, il est dans une affaire collective. C'est Israël qui est croyant. Et les individus en Israël réalisent cette croyance à leur manière, certains positivement, certains négativement, mais même ces athées négatifs sont dans l'alliance religieuse. Ça vous explique ce paradoxe de la halakha par rapport à ce problème. Quant à ce serait la règle de n'importe quelle église. La règle de n'importe quelle église, c'est l'église des croyants. Alors que la règle d'Israël, c'est tout le monde est à l'intérieur de cette alliance, les croyants ou les pas-croyants. Et peut-être que les pas-croyants ont plus de mérite que les croyants. Parce qu'au moins les croyants, ils ont quelque chose qui les éclaire, qui les aide, qui les... Mais les autres, eh bien, il faut le faire. C'est eux qui ont plus la foi que ceux qui... C'est paradoxal, mais c'est très, très... C'est très... Il faut commander ce
livre. À la limite, de nos jours, seuls les mécréants ont vraiment la foi.
Oui, alors là, il ne faut pas tomber dans cette équation. Parce que là, ils auraient des crises de foi.
Oui.
Je veux dire, là, c'est l'expression Emouna Lishma. La foi, Lishma. Ce n'est pas exactement désintéressé. Lishma, authentique. Si elle est éclairée par la connaissance, elle est aidée par la connaissance. Mais s'il y a foi sans les motifs de la foi, sans les raisons de la foi, cette foi-là est beaucoup plus profonde. Et je crois que ce n'est pas du tout une consolation sur l'état des mœurs en société juive, on pourrait faire une thèse là-dessus, mais le fait que ce soit des mécréants, comme on dit en français, qui s'occupent du destin d'Israël, c'est très réconfortant. Ça veut dire que c'est Dieu qui le fait. Alors on est sûr. Si c'était des croyants, on se dirait, bon, ils ont un intérêt, alors ils font ce qu'ils croient. Mais voilà, qui réalise les promesses des prophètes? Des gens qui sont censés ne pas y croire. Alors là, c'est sûr.
L'expérience de Shlomo...
Attendez, je vous ai terminé là. Ça vient aussi de Shushani. Ça vient aussi de Shushani, quand je l'ai cité une fois. Lorsqu'il y a une différence entre un athée juif et un athée non-juif, vous connaissez ça?
Oui.
Un athée non-juif ne croit pas que Dieu existe. Un athée juif croit que Dieu n'existe pas. Rien à voir. Oui, c'est deux attitudes complètement différentes. Bien, oui.
L'expérience de Shlomo avec le peuple d'Israël et le temple a constitué cette rencontre dont vous avez parlé, c'est lui qui a écrit Shir HaShirim. Mais la rencontre a eu lieu, elle a réussi, mais n'a pas duré. Pourquoi il y a eu cet échec? Il y a eu étalement, comme vous dites.
Très bien.
Est-ce qu'elle reprend la rencontre? Elle a repris, deuxième, troisième. Pourquoi ces échecs? Pourquoi pas éternité?
C'est là, comment dire, bon, ça c'est le problème qu'on va étudier avec le serment. Ne fais pas revenir l'amour avant que le temps ne soit arrivé. Vous voyez, c'est les versets de demain et après-demain. Demain c'est donc mercredi et jeudi on aura le temps. Écoutez, c'est la question que vous m'avez posée hier à la fin du cours, je vous ai dit reposer l'amour. Ah oui, c'est ça. Bon, comment dire, c'est un thème extrêmement important et je voudrais être très attentif à la formulation. Ça dépend du mérite. Ça veut dire, en principe, et là, ne croyez pas que je me fais par méthode l'avocat du diable, enfin, ce n'est pas ma thèse de ma foi personnelle, individuelle, puisque je suis israélien. Mais je voudrais être totalement objectif et donc très, très attentif à la formulation. C'est. En principe, cette rencontre n'a à être qu'exceptionnelle avant la fin. Toute l'histoire du monde, c'est l'histoire de cet exil réciproque. Parce que nous sommes dans l'apprentissage. Est-ce que c'est clair? Le miracle de l'histoire d'Israël, c'est que la rencontre a eu lieu. Elle a eu lieu à la fois en préfiguration et en viatique. Je ne sais pas comment expliquer ce terme. C'est-à-dire la nourriture qu'on prend pour être sustenté en chemin. Okay? Nous avons eu des rencontres, des moadim que nous commémorons dans notre calendrier. Nous avons eu des rencontres, des moments privilégiés de rencontres pour nous donner ce viatique, dans le sens strictement théologique du terme. Mais en principe, a priori, la révélation ne devait pas se faire à travers tout le temps de l'histoire de ce monde-ci, à moins qu'il n'y ait déjà point de réussite, mérite, identité déjà de la fin des temps qui apparaissent en cours de temps. Est-ce que c'est vrai? C'est un peu cette expression hébraïque, mais énorme là-bas. Ces hommes de ce monde-ci qui vivent déjà la manière du monde à venir. Alors pour eux, la révélation est possible. Mais en principe, a priori, la révélation, la rencontre, la construction de Jérusalem, la construction du temple, c'est pour la fin des temps. Mais voilà, nous avons pu mériter des phases de monde à venir déjà dans ce monde-ci. Et alors, a priori, il n'y a pas d'étonnement. L'étonnement est inverse. Comment avons-nous fait pour mériter que ce soit possible, alors qu'a priori, c'était pour le monde à venir? Est-ce que c'est clair?
Oui.
L'étonnement, c'est pas pourquoi la prophétie a cessé. C'est comment se fait-il qu'elle ait eu lieu.
Quel est ce mérite?
Voilà, ce mérite, c'est le mérite moral. Mais je voudrais ajouter, pas seulement d'Israël, de l'humanité tout entière à chaque génération. Chaque fois que le Talmud parle de ces problèmes et dit le Srout Ador Zaha ou Ador Lozaha, il ne s'agit pas seulement de la génération de la société d'Israël, mais de l'humanité entière. Le Dor, c'est la génération de l'humanité.
C'est les oasis dans le désert, alors, dans la traversée.
Un peu, si vous voulez, c'est une image.
Okay. Alors tous les couples n'ont pas réussi finalement.
Et vous voyez que vous retrouvez le même problème. C'est très difficile de faire réussir un couple. Lorsque un couple ne réussit pas, bon, ben c'est le monde. C'est le monde qui fonctionne. Lorsqu'il réussit, il faut le féliciter. Vous savez, maman, je vais le faire. C'est-à-dire, l'étonnement doit être l'inverse. Exceptionnel quand ça réussit. Quand ça réussit pas, ben c'est ça le monde. Et vous comprenez pourquoi la législation talmudique facilite le divorce. Hein? Alors que la législation, la casuistique chrétienne, qui se pense dans le monde à venir mythiquement, interdit le divorce. Et comment on va vivre sans divorce? Étant donné que c'est si difficile de réussir cette chose inouïe qui s'appelle le mariage réussi. Je ne dis pas ça pour consoler les séparés, mais c'est ça, Moshi Yechidim Baita. C'est le miracle des miracles. Moshi Yechidim Baita. C'est Dieu lui-même qui réussit les mariages réussis. Et il faut le faire. Vous connaissez ce midrash?
Oui.
Qu'est-ce que Dieu fait depuis la création du monde? Innocemment, le midrash dit, mais c'est ça notre
mariage.
Il fait les mariages. Quand c'est lui qui les fait, ça réussit peut-être. Mais quand c'est pas lui, alors, voilà. Bon.
Ma question est comment à sa place?
Je crois qu'il faut se rendre compte de cela. C'est un privilège miraculeux. Un baït de Yechidim. Moshi Yechidim Baït. C'est-à-dire lorsque le mariage réussit. Et puis, bon, si ça n'a pas marché, eh bien, le monde a fonctionné. C'est ce monde-ci. Est-ce que c'est suffisamment clair ce que
je dis? Et cette multiplication des divorces dans les milieux religieux orthodoxes? Actuellement, non, c'est déjà.
Écoutez, je ne sais pas si ça correspond à une réalité, mais ça met en question le caractère orthodoxe et l'orthodoxie en question.
Même en Israël.
Non, mais j'entends bien. Et est-ce que ce n'était pas des mariages actifs? Est-ce que ce n'était pas des mariages...
Attendez,
je comprends ce que vous dites pour les orthodoxes. Okay. C'était des mariages fabriqués. Okay. Préfabriqués, etc. Non, je crois que c'est toute l'atmosphère talmudique de ce problème.
Non, je n'ai pas dit autoprate, parce que je pensais bien. J'ai lu ça la semaine dernière.
Non, écoutez, tout est possible dans le monde où nous nous trouvons.
Ah, je n'ai pas lu dans
le Figaro. Mais même l'accroissement du prix du pétrole. Mais je veux dire que j'essaye de vous restituer l'atmosphère talmudique de la question qui a été posée. Parce que le Talmud sait très lucidement qu'un mariage sans divorce est une chose exceptionnelle. Un mariage réussi est une chose exceptionnelle. Bien entendu, il n'aime pas le divorce. Mais le divorce est nécessaire dans ce monde-ci. Est-ce que c'est clair? Je vois bien une blague des Yeshivot. Dans l'ordre des traités talmudiques, on étudie d'abord Gittin avant d'étudier Kiddushin. C'est-à-dire, on étudie d'abord le traité sur les divorces avant d'étudier le traité sur le mariage. Pourquoi? Alors la blague, et c'est pas tellement une blague, c'est de dire Makdim Refoua la Maka. Vous connaissez ça? J'explique. C'est-à-dire que la Torah a prévu le remède avant la maladie. Makdim Refoua la Maka. Mais en réalité, c'est plus profond que ça. Ça veut dire, on ne veut parler que d'un mariage après qui il n'y aurait pas de divorce. Alors on s'occupe d'abord des cas de divorce, s'il doit y avoir divorce, et après du mariage, après quoi il n'y a pas de divorce. Vous comprenez? Parce qu'il y a ce grand principe. A priori, c'est interdit de se marier avec en vue la cause du divorce. Un mariage, c'est sérieux. Maintenant, si c'est arrivé a posteriori, alors on divorce. Mais, est-ce que c'est clair? Mais a priori, ce serait un blasphème de supposer qu'il y a toute une souillade dans ta vue là-dessus, on ne se marie pas à condition. Le mariage a pour l'intention que c'est définitif. Mais voilà, on est encore dans ce monde-ci où la rencontre réussie est si rare. Alors, si a posteriori c'est arrivé que ça ne marche pas, alors il faut le divorce et c'est cachère. Mais a priori, le divorce n'est pas aimé par la Torah. A posteriori, il est nécessaire.
Il y a des contrats de mariage, non?
Un mariage sans contrat de mariage n'est pas valable.
On parle des contrats 5 ans. Hein.
Un mariage, comme expliqué, tu l'as dit. On se marie pour 5 ans.
Non. Je peux poser, je t'apporte tant, tu m'apportes tant.
Oui, ils font un contrat. Parce que écoutez, le mariage, c'est aussi.
C'est récent.
Non,
ça a toujours été.
Pas du tout. Depuis l'origine et au temps des patriarches, s'il n'y a pas la ktouba, le contrat de mariage, les droits et les devoirs réciproques ne sont pas signés et promis, le mariage n'est pas valable. On n'a pas le droit d'habiter avec sa femme si la ktouba n'est pas dans l'appartement. Je ne sais pas si vous savez ça. Okay. Et si quelqu'un, un couple a perdu sa ktouba, le jour même, il en va se faire une autre, par le bédine. Sinon, c'est concubinage et pas mariage. Parce que le mariage n'est pas seulement la rencontre et l'unité de deux personnes, c'est aussi une relation sociale avec les droits et les devoirs.
Comment est-ce possible, puisque il suffit qu'il y ait deux témoins, deux amis, pour qu'on puisse se marier?
Oui, mais il faut un acte de mariage. Il faut un acte.
C'est des témoins qui vont l'écrire.
Bon, alors étant donné en principe, si tous les juifs étaient de bonne foi, capables d'être témoins véridiques, etc., la loi, en principe, et qu'il suffit qu'il y ait deux témoins cachers pour qu'eux rédigent la Ketouba. Comme on n'est pas capable, alors il faut des instances habilitées. C'est tout.
Je peux poser la question d'hier, s'il vous plaît.
Laquelle?
Dans la perspective de la paix finale, et non pas de la chute finale ou de la lutte finale, Ishmael, vous avez dit dans un ancien séminaire que Ishmael va faire Ketouba et va reconnaître Israël dans sa terre.
Oui.
Ça, c'est l'une des trois religions du judaïsme. La deuxième...
Attendez, Ishmael, ce n'est pas une religion d'abord. Ishmael, c'est d'abord une société humaine qui a sa religion, qui est l'islam. Ishmael, c'est une société politique.
C'est comme cette société politique. La deuxième société, c'est des sociétés extrême-orientales. Quelle est la perspective? On ne les voit pas. Elles sont absentes dans l'histoire juive.
C'est la deuxième question.
La troisième question, c'est Essa. C'est Essa.
Écoutez, je réponds aussi successivement qu'on va s'arrêter là parce que l'heure est arrivée. Écoutez, voilà le problème. Effectivement, nous avons étudié, avant même qu'il y ait l'accord de paix entre Sadat et Begin, que selon l'enseignement de la Torah, il arrivera un temps où Ishmael fera la paix avec Isaac. Et la clause de cette paix qui en montre son authenticité, c'est lorsque Ishmael reconnaît que Isaac est chez lui à Hebron. Vous vous rappelez de ça? Dans la caverne de Martin. Ce n'est pas encore le cas.
Non.
On a signé la paix avec Ishmael, enfin avec l'Égypte. Parce que l'Égypte, c'est tout Israël. Est-ce que l'Égypte, c'est tout Ishmael?
Non.
C'est un autre problème. Mais actuellement, l'Égypte ne reconnaît pas encore, ni l'Égypte ni les autres, qu'Israël est chez lui à Hébron. C'est ce que nous sommes en train de vivre dans les temps actuels. Est-ce qu'il y aura cet aveu? Lorsqu'il y aura cet aveu de reconnaissance, alors cette paix sera fondée. Voilà ce qu'il y a. Maintenant, deuxième question, mais très rapidement. La Torah parle des sociétés extrême-orientales lorsqu'elle parle des goyim en général. Alors, de nom, il y aura ça parce que Gaoni fait allusion. Ishmael et Esav, c'est le cas particulier des limites extérieures de la famille d'Abraham. Les nations, c'est aussi tous les descendants de Noah, les sociétés extrême-orientales y compris, on nous raconte, mais ça ne nous intéresse pas dans le propos biblique de l'histoire de la famille d'Abraham. On nous raconte que Moïse a fait un stage de 40 ans dans ces sociétés-là, bah, c'est moi qui dis stage, hein, un voyage de 40 ans dans ces sociétés-là, quand il était chez Jéthro, il est allé jusqu'en Inde, il est allé jusqu'en Éthiopie, il est allé, etc. Vous voulez un jour nous parlerons de ça. Troisième question, est ça. Je ne pourrais pas en une phrase, mais enfin je vais essayer. À partir du moment où la conscience chrétienne reconnaît que c'est bien le peuple juif d'Israël, elle disparaît comme tel. Et c'est pourquoi elle ne peut pas le reconnaître, parce qu'elle sait qu'il y a là sa disparition. Et c'est un autre problème énorme.
Spirituel.
Non, politique aussi. C'est un autre problème énorme. Écoutez, deux questions rapides. D'abord, mademoiselle.
À propos de mariage, je pense que, suivant ce que vous avez indiqué, c'est tous les arbres qu'on a réussi, ce n'est pas le mariage, mais le baïd et les bannis. Et donc,
c'est ça
qu'on conçoit très bien qu'il y a des mariages qui peuvent rentrer dans tout parce qu'ils sont des approximations, parce que l'important à réussir, c'est ça. Ce qui veut donc dire, attention, si ce n'est pas une relation sexuelle, mais la relation de fraternité qui est à réussir, ça implique de toute façon quelque part un niveau.
Attendez, je vais répondre très rapidement. Votre question est très claire. Très claire, je vais le dire. De toute façon, la relation sexuelle est transitoire. Il y a un âge où elle se transfigure. Et quand on est jeune, on ne se rend pas compte de cela. Okay, mais elle est transitoire. Elle est le véhicule indispensable de la construction. Si elle n'est pas réussie, la construction de la fraternité n'est pas possible.
C'est ça.
Mais elle est transitoire, alors que la relation de fraternité est éternelle. Est-ce que la réponse suffit? Voilà. Okay.
À quel point le caractère réussi du mariage est exceptionnel? Même le mariage entre Dieu et Israël est illustré par un enseignement que vous pouvez donner pour le nôtre séminaire, que Dieu s'est placé pour le mariage avec Israël dans la seule condition dans laquelle le divorce
est impossible.
Ce qui montre bien que même dans le mariage entre Dieu et Israël, la réussite est tellement exceptionnelle que Dieu avait peur.
Si j'ose dire, c'est comme nous disons, Dieu dans sa grande sagesse. Voilà, il y a une loi de la législation talmudique, qu'il y a une certaine occurrence de mariage où le divorce est interdit. C'est quand un homme a pris une femme de force et qu'il doit la marier, on ne lui donnera jamais le divorce. Si elle demande, c'est autre chose. mais lui ne la divorcera jamais. Et Dieu nous a pris de force pour être sûr qu'il n'y ait pas de divorce. Il n'a pas pris n'importe qui de force, mais il nous a pris de force.
Il nous a pris de force.
Oui, c'est sûr, mais pour être sûr qu'il n'y ait pas de divorce. C'est le Maharal qui a enseigné ça. Il y a dans deux chapitres différents de son œuvre, c'est très important. Et il y a un chapitre d'Ézéchiel extraordinaire. Ah, vous croyez que vous êtes libre? Eh bien, vous verrez, je vous prendrai Bechemash Pucha, avec une colère terrible. Quand vous ne voudrez pas, vous verrez comment moi je vous veux. Ça veut dire de force. Vous voulez ou vous voulez pas, c'est comme ça, c'est univers. Au week-end, on verra. Alors, je vous sais, nous avons étudié hier cette partie-là. Alors, nous allons prendre après le point. El Kala, Pe, El Pe. Ça, c'était l'explication de, du He et du Vav, comme nous l'avons vu dans Pijou. Alors, Ki Torim de Decham Yaim. Vous rappelez, je retraduis le verset. Chacun y vine chez Kot Pehu, qu'il m'embrasse, qu'il me baise des baisers de sa bouche, Pehu. Et c'est, comme nous disons en hébreu, c'est en lachon nohar, en lachon nistar. C'est-à-dire, la bien-aimée, la shulamite, s'adresse aux autres en disant, je ne sais pas comment on dit dans le théâtre, mais dans le théâtre, à la cantonade, moi je suis au cas d'Ukraine, en disant, Ishakeni, qu'il me. Et puis, c'est le souhait qui est adressé aux Benot Yerushalayim, qui sont les Oumdat Haolam, les nations du monde, sont appelées Benot Yerushalayim. Nous aurons à voir un commentaire sur cette expression dans le verset suivant. Et ensuite, il y a la chose Nochar, où elle s'adresse directement à lui, en lui disant, Tu kitovim bevecha miyaim. Car ton amour, dans l'expérience concrète de l'événement, de la réalité, nous avons eu une petite discussion hier matin, historique, je dirais, la réalité est plus pour moi que la connaissance de ce dont il s'agit. Kitovim dodecha miyai. Ton amour est meilleur que le vin. Dodecha, c'est-à-dire les actes d'amour, et yaïn, c'est la connaissance de cet amour. L'exemple que va reprendre le Gaon, mais que prennent la plupart des midrashim, c'est que cet événement a eu lieu une fois, je ne veux pas dire une fois pour toutes, mais en tout cas en tant que préfiguration, illustration de quoi il s'agit au Sinaï. C'est pourquoi le commentaire se relie au fait que Ishaken Yimineshiko Pihu a eu lieu au Sinaï, Tovim Dodecha a eu lieu au Sinaï, Miaïn, c'est la connaissance que j'ai de cela à travers les porte-paroles à partir du temps du Sinaï. Je vais reprendre un peu assez brièvement ce schéma qui me semble très important. La Bible raconte les commencements. Et dans le principe de sauf Marassé, sauf Marassé de Marachavat Trila, nous allons prendre comme principe de cette analyse ce qu'il y aura à la fin de l'œuvre, sauf Marassé de Marachavat Trila, était au commencement dans l'intention. Le projet est au commencement, l'accomplissement est à la fin. Mais sauf Marassé, ce que l'on atteindra à la fin du Marassé, du processus de l'acte, dans l'histoire, à la fin de l'histoire, se trouve déjà au commencement dans le premier. Par exemple, vous trouverez des midrashim de ce genre que la Torah a précédé la création du monde. Le projet de la Torah a précédé la création du monde. Le projet d'Israël a précédé la création du monde. Le nom du Mashiach existe avant l'histoire du monde. C'est sauf Maasé de Marchabat Trila. Ce que l'histoire du monde arrivera à aboutir à être, d'être, je ne sais plus comment dire, se trouve être déjà a priori en tant que Marachava, en tant que projet, au commencement. Parce que le principe est suffisamment clair. Et vous savez comment cela est indiqué en particulier, le jour de Simchat Torah, nous finissons de lire tout le récit de la Torah, jusqu'à Bezot Averacha, le dernier verset se termine par l'expression « Le'ene kol Israël » et les miracles que Moïse avait fait, « Le'ene kol Israël » aux yeux de tout Israël. Et immédiatement après, on commence le texte de la Torah par Bereshit Varelokim et Tashomim et Taaret, au commencement Dieu avait créé le ciel et la terre, et il y a un des midrashim de cette jonction entre la fin du récit de la Torah et le début de nouveau du récit de la Torah qui nous fait lire un verset qui apparaît comme cela, les aînés qu'on Israël, Bereshit Varelokim. Aux yeux de tout Israël, Dieu a créé le ciel et la terre. Bon, il y a saut de valeur, mais ça veut dire que ce qu'il y a à la fin, au point de vue réalisation, se trouve déjà au commencement, au point de vue projet. Et ça est indiqué aussi d'une autre manière, par une indication, disons, de sémantique, si vous voulez, c'est que le mot de réchit. Est-ce qu'il y a un crayon là? Vous avez? Bon, voilà.
Un
comme ça, c'est vrai, c'est trop
fort. Ça peut être long, c'est fait.
Vous voulez un stylo?
Elle est pas, elle est... Un feutre, oui, donc.
Vous voulez un stylo?
Vous voyez ça? Oui,
Réchu,
vous arrivez à voir?
Je dis
Réchu, non. Non, ça fait rien. Alors, essayez de visualiser, je sais pas ce qui est devenu, machin.
Il est peut-être en...
Le...
Avec ça, c'est noir, c'est un feutre aussi.
Ça fait essayer de visualiser.
Vous avez
bien. Non, c'est vrai. Réchit, ça veut dire le commencement. Chérit, ça veut dire le reste, la fin. Et c'est les mêmes lettres, vous voyez. Réchit, au commencement. Ce qu'il y a au commencement se retrouvera à la fin. Chérit, Veria, Chérit, Israël. Vous voyez à peu près l'idée qu'il y a là. C'est-à-dire, l'être du monde est mis en jeu dans une histoire. Et ce qu'il y a au commencement se retrouvera à la fin, dans une disposition différente. Le thème...
Excuse-moi, on me dit de demander à M. Fleisch...
Alors, voilà donc l'idée qu'il y a là, c'est que le thème général, d'après nos analyses, c'est que tout est donné au commencement, et ce qui est au commencement se retrouvera à la fin, dans une modalité différente. Au commencement, il y a le projet... l'être de vérité. À la fin, il y a la réalisation, l'être de réalité. Entre-temps, le mérite d'être a été acquis. Est-ce que c'est suffisamment clair? Et c'est la différence entre Réchit et Chérit. Je crois que je vais citer une fois dans le cours d'après le séminaire. Bon, enfin, je reprends l'analyse très brièvement. Du point de vue pour élucider le vocabulaire. Quelle différence il y a entre le Gan Eden, dont parle le récit du commencement, et le Olam Haba, auquel mène l'histoire du monde? Eh bien, c'est que c'est la même chose, mais c'est très différent. Parce que le Gan Eden est donné, alors que le Olam Haba est acquis.
Mérité, non?
Mérité. Le mérite étant la transition qui transforme le donné en acquis. Peut-être que ça éclaire un peu.
Vous
tout là, merci.
Vous en apportez un
autre. Très bien, bon, ça va. En tout cas, je vous mets ces termes-là, vous voyez, Réchit et Chérit. Le problème, c'est l'impatience du Sinaï. C'est-à-dire tout le temps de cette génération de la sortie d'Égypte, qu'on appelle la génération du désert, mais j'emploierai pas cette expression parce qu'elle est péjorative, il faudrait du temps pour expliquer. En hébreu, la génération du désert, Dor HaMidbar, c'est pas du tout le sens de génération perdue. C'est cette génération des géants qui ont eu le privilège du temps de révélation. C'est la génération des commencements au niveau de Klal Israël. Si vous voulez, leurs échecs étaient à la hauteur de leur grandeur. Je ne sais pas comment dire ça, mais vous comprenez l'idée. Par exemple, dans cette Mishnah du Pirkei Avot qui nous dit dans le chapitre 5, Asara, Nisyonot, Nisu, Avotenu, et Bamidvar, Bamidvar et Takashvor. Tu as le texte. Cette génération du désert a soumis Dieu à 10 épreuves. Et on les énumère. Surtout dans le livre de Bamidvar, toute cette série de récits, des contestations contre Moïse et Aaron, mais des contestations de toute la génération du désert. Mais le terme qui est employé par la Mishnah est bien précis, comme si cette génération avait, c'est comme ça que le Maharal l'explique dans le Derech HaChaim, avait le privilège de devoir et d'avoir à mettre à l'épreuve Dieu en chacun de ses attributs. Ce privilège, c'est que seule cette génération a été menée, appelée, à faire que, à travers les miracles réclamés, il n'y a pas d'eau, il faut de l'eau, il n'y a pas à manger, il faut à manger, etc., mettre à l'épreuve l'être du projet dans la réalité. C'est cette génération qui était le keli du dévoilement des différentes dimensions de providence de Dieu pour Israël. Là était le grand privilège. L'échec était dans l'attitude. La disqualification, la condamnation que nous montre le récit était dans la manière de réclamer. Est-ce que c'est clair ce que je dis là, okay? Vous rappelez par exemple ce que raconte la Gemara de... C'est donc la Gemara de Avodah Zarah, qu'à la fin des temps, au moment du jugement, les nations du monde réclameront et diront, bon, pourquoi Israël est privilégié? En fin de compte, c'est parce qu'il a eu la Torah, alors il a eu le mode d'emploi de l'histoire, alors il a su comment arriver.